soutenons le gouvernement centrafricain dans cette politique d'envoi d'une opération de maintien de la paix en République centrafricaine. Nous le disons parce que aujourd'hui, nous savons qu'il y a déjà, conformément à la résolution 21-27 et 21-34, les Nations Unies ont pris une position assez claire pour dire qu'il faudrait que la situation en Centrafrique soit stabilisée et que les différents belligérants comprennent qu'il faut la paix. Mais nous avons constaté que malgré la présence des forces sangarises, donc les forces françaises et les forces africaines de la MISCA, il y a encore des violences qui ne se justifient point à mon égard.
Le ministre centrafricain des Affaires étrangères parle de la présence de miliciens janjaouites soudanais au sein des ex-Séléka. C'est quelque chose que vous avez constaté sur le terrain?
Nous avons aujourd'hui même la confirmation par le gouvernement tchadien qui reconnaît qu'il y a des mercenaires tchadiens qui font partie de la Séléka. Et nous savons qu'il y a des janjaouites qui sont venus du Darfour, donc ceux des Soudanais, qui ont fortement appuyé la Séléka. Nous en connaissons, il y a un général Moussa qui est connu, qui a été sur les opérations à Bangui. Et il y a aussi des Soudanais qui ont opéré dans la zone de Yaloké et ses environs, et donc qui ont maintenu vraiment la population dans un étau. Et donc, ça posait vraiment des problèmes pour nous aujourd'hui. Certes, ces Soudanais ne sont plus à Bangui, ou certaines ne sont plus à Bangui. Ils se sont retirés vers le nord, mais nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le nord, parce que bon, c'est la frontière avec le Soudan. Ils sont en train certainement de préparer des choses que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème avec la présence des militaires tchadiens qui sont souvent mis en cause par la population centrafricaine?
Le Tchad et la République centrafricaine sont deux pays frontaliers. Nous n'allons pas déplacer nos frontières, etc. Et nous avons des relations qui datent de centaines, de plusieurs générations. Nous sommes dans la communauté économique des États de l'Afrique centrale, on est lié par plusieurs conventions, et donc entre l'État tchadien et l'État centrafricain, normalement il n'y a pas de problème. Seulement, nous avons constaté que sur le terrain, il y a un certain nombre d'éléments qui font partie du contingent tchadien, qui ont des comportements de nature à troubler la quiétude. Et il y a eu d'ailleurs des morts parmi les soldats tchadiens, ça signifie que il y a eu quelque chose. Et à plusieurs reprises, nous avons constaté malheureusement que certains éléments des contingents tchadiens ont un comportement qui n'est pas de nature à favoriser, n'est-ce pas, l'harmonie entre les populations. Et ça, oui, je confirme.
Le représentant des Nations Unies qui dirige le Haut-Commissariat aux réfugiés, Antonio Guterres, a parlé de nettoyage ethnique contre les populations musulmanes. Mais quel genre de violations constatez-vous au jour le jour sur le terrain?
Moi, je pense qu'il faut nuancer. On ne peut pas parler de nettoyage ethnique. Parce que le fait d'être musulman ne dit pas qu'on est. Il n'y a pas une ethnie en Centrafrique qui s'appelle musulman. Si c'est une confession religieuse comme toute autre confession religieuse, et nous avons malheureusement constaté que dans les agissements de certains belligérants, il y a eu des attaques ciblées. Et effectivement, il y a eu des musulmans qui ont été obligés de quitter le pays. Malgré eux, je pense. Et il y a eu, dans certains arrondissements de Bangui et dans certaines préfectures aussi, certaines maisons appartenant à nos frères musulmans qui ont été détruites purement et simplement. On a aussi vu que certains aussi ont été assassinés et nous le regrettons. Bien entendu que il y avait eu des comportements, certains éléments de la Séléka qui n'ont pas aidé, n'est-ce pas, à l'harmonie entre les peuples. Et nous avons eu aussi, de la part de certains Séléka, des comportements de ce genre qui ont mis à mal la quiétude centrafricaine.
Est-ce qu'aujourd'hui les autorités centrafricaines sont à la hauteur de la situation, notamment concernant le redressement de la sécurité en Centrafrique?
Soyons réalistes, il faut dire qu'aujourd'hui l'État centrafricain est en mal de sécuriser l'ensemble du pays, simplement parce que l'armée aujourd'hui ne fait pas son travail. Cette armée n'existe que de nom pour le moment, puisque de toute façon ils n'ont pas les moyens pour faire leur mission, accomplir leur mission. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale est intervenue.
Est-ce qu'aujourd'hui vous appelez à traduire en justice Michel Djotodia et François Bozizé pour tous les actes qui ont été commis
Aussi bien Bozizé que Djotodia, chacun est responsable des actes qu'il a posés. Il y a une enquête qui est en cours. Et donc l'enquête va nous dire qui est responsable de quoi. Et ça, vraiment, c'est important de le préciser. Il n'y a pas que les deux. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont commis des actes de violation des droits de la personne humaine. On a eu des cas de violence sexuelle. Il y a eu des cas de meurtre et d'assassinat. Il y a eu des cas de pillage. Il y a aussi eu des cas d'enlèvement. Il y a eu des cas de recrutement d'enfants dans les milices. Et tout ça, et il me semble que... Mais chacun doit s'expliquer. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres Centrafricains, beaucoup d'autres personnes d'origine étrangère, notamment les Soudanais et certains Tchadiens, qui sont intervenus en République centrafricaine, que chacun doit s'expliquer. Nous en appelons en même temps aux juges centrafricains, qui sont les premiers responsables en matière de justice, de prendre aussi leurs responsabilités pour que justice soit entendue.
On se souvient de l'assassinat de ce juge centrafricain qui avait fait sortir dans la rue les professionnels du droit en Centrafrique. Aujourd'hui, quelle est la situation pour les avocats, les juges et globalement les défenseurs des droits de l'homme?
Nous regrettons l'assassinat de M. Modeste Bria, que nous connaissons très bien. Il était directeur général des services judiciaires à cette époque-là, là où il avait été assassiné. Nous le regrettons parce que nous pensons que non seulement on n'a pas assez de magistrats, mais en plus on en tue, c'est pas bon. Ce qui est arrivé à M. Bria Modeste nous interpelle tous. Il n'y a pas de sécurité. Et vous savez que chez nous, malheureusement, n'importe qui peut avoir des grenades, des fusils d'assaut, etc. Nous en avons discuté avec la chef de l'État, bien entendu avec Madame la ministre de la Justice aussi. Les deux sont préoccupés par la situation et ont pris l'affaire en main. Et on a vu que, par exemple, Madame Samba Panza a sorti de sa poche, n'est-ce pas, de l'argent pour réhabiliter la maison d'arrêt de Bangui. Il faut sécuriser ce lieu et mettre la chaîne pénale en marche. Ça aussi, c'est tout un tas c'est un programme en réalité.
Face à toutes ces difficultés, personne n'ose avouer que le scénario est presque impossible d'organiser des élections d'ici février de l'année prochaine. Qu'en pensez-vous?
Les élections, comme on le dit, c'est un processus. Ce processus doit commencer d'abord par l'identification des électeurs. Mais vous savez, aujourd'hui, les électeurs sont où? Ils sont dans la nature. Certains sont à l'étranger, d'autres encore dans les sites des personnes déplacées, etc. Comment voulez-vous qu'on organise des élections dans une situation d'insécurité totale et dans une situation où le pays est quasiment divisé en deux? Comment accéder dans ces zones qui sont un peu plus loin pour ceux qui pensent qu'il faut aller aux élections? Ça pose problème quand même. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que nous sommes prêts à organiser une élection. Ce n'est pas réaliste. Et c'est pour cette raison que nous avons dit qu'il est important pour nous d'avoir une opération de maintien de la paix avec des mandats robustes pour permettre à faire revenir la paix ou à faire imposer la paix à tout le monde. Et que dans ces conditions, on espère que sur l'ensemble, il y a la liberté de circulation. Mais tant qu'on n'aura pas cette sécurité, ça va être très difficile.
L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba est actuellement jugé à la Cour pénale internationale. C'est un dossier que vous suivez de près. Quel parallèle faites-vous entre la situation il y a 10 ans et la situation que connaît la Centrafrique aujourd'hui?
Juger Jean-Pierre Bemba, c'est une chose. Lui, il est déjà à la barre, mais ça ne suffit pas. Quand ça s'est passé en 2002-2003, il y a aussi eu d'autres acteurs qui n'ont pas centrafricains, qui n'ont jamais été inquiétés jusqu'à le jour d'aujourd'hui. Nous pensons que la Cour pénale internationale fera en sorte que certains Centrafricains qui sont responsables de ces crimes de 2002-2003 soient effectivement jugés aussi, comme c'est le cas de M. Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, malheureusement, on retrouve parmi les présumés auteurs de ce qui se passe sur le terrain certains des responsables des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui avaient eu lieu en 2002-2003. Oui, le fait qu'on n'ait pas pris en compte la situation de ceux qui étaient responsables ou présumés responsables de ce qui s'était passé en Centrafrique, ça permet aujourd'hui aux gens de penser que l'impunité devient la règle. Et ça nous pose problème.
Vous êtes l'avocat de la famille de Charles Massy. Avez-vous bon espoir, depuis la chute du régime Bozizé, d'avancer et qu'un jour nous ayons la réponse concernant la disparition de Charles Massy?
Paix à son âme, nous savons dans quelles conditions M. Massy avait été assassiné. Les auteurs de cet assassinat sont libres de leur mouvement aujourd'hui. L'heure de la vérité est arrivée et que la famille Massy et que les Centrafricains aussi puissent comprendre qui a fait quoi à Massy.